Donc, Subito Radio, avec Claire Colin-Colin, dans un atelier temporaire, du coup, c'est pas ton atelier à l'année, tu es là pour 3 mois. On est dans un atelier qui est pas très grand, une trentaine de mètres carrés, avec 2 petites fenêtres qui seraient assez sombres sans lumière électrique. Voilà, du coup, tu travailles avec la lumière. Et donc des formats, donc il y a deux, trois très grands formats comme ça, des plus petits formats, des chaussures papier, et puis il y a aussi installé au sol, donc outre cette bâche maculée de peinture que tu piétines apparemment, 2 tasseaux de bois sur lesquels tu poses tes toiles, et voilà, tu as l'air de travailler plutôt debout.
Oui, c'est vrai, oui. Je travaille plutôt debout.
Et je sais pas, est-ce que tu nous décris les peintures déjà ou...
Oui, alors comme tu disais, il y en a beaucoup. Et ça, c'est particulier pour moi de laisser les peintures accrochées au mur. C'est ce que je fais pas à l'atelier habituel. Alors d'une part, ici, j'ai pas de réserve parce que comme tu disais, c'est un atelier provisoire. Mais c'est aussi parce que j'essaye de plus travailler à sentir si elles tiennent dans le temps. Parce que j'ai tendance à beaucoup faire, j'aime beaucoup faire, donc j'en fais beaucoup. C'est aussi ma façon de travailler dans cette répétition un peu compulsive d'un geste que j'épuise. Et après, il me faut du temps pour sentir si la peinture tient. C'est-à-dire, il y en a certaines qui ne servent qu'à faire la suivante. À être dans ce mouvement et qui ensuite n'ont pas de présence, et d'autres que j'ai envie de garder, dont j'ai envie qu'elles continuent d'exister. C'est pas le cas de toutes, et ça c'est difficile à décrire, j'en parle souvent. Je dirais que c'est une présence. Parce que je trouve que c'est assez difficile à définir pourquoi c'est là ou pas là. Ça tient à presque rien, en fait. Et c'est difficile à dire pourquoi. Après, si, moi, je sais pourquoi j'ai envie d'en garder certaines, c'est quand elles m'étonnent. Ça, c'est vraiment le moteur de ce qui me fait continuer. C'est ce désir que quelque chose apparaisse qui m'étonne, que j'avais pas... anticipé et qui arrive. Mais plus précisément, de dire pourquoi pour moi c'est là ou c'est pas là, c'est assez flou.
Pour décrire, t'as d'abord un fond très, alors plat, pas vraiment, enfin à la fois il donne l'impression d'être très tendu. Comme on a l'impression que c'est plein de passages très liquides qui donnent une profondeur dans les couleurs, avec des couleurs différentes, des couleurs assez sourdes toujours.
Peut-être.
Et comme si une fois qu'il y avait eu ce fond, après tu as par-dessus un geste. Alors je ne sais pas si c'est quand c'est sec ou si c'est bien plus tard ou si c'est un geste qui est plus un geste. Beaucoup plus, qui donne l'impression d'être beaucoup plus rapide et de la peinture beaucoup plus épaisse. Enfin, rapide, pas non plus. Sans doute, tu le passes assez lentement, mais en une fois, quoi, on va dire.
C'est plutôt rapide, en fait, ce geste-là. Rapide. Mais en effet, c'est en 2 temps. C'est-à-dire, il y a d'abord un travail d'un fond, comme tu dis, même si ce fond, de plus en plus, il se met à dessiner. C'est-à-dire qu'avant, c'était beaucoup plus des aplats. Et donc, il y avait cette. Cette séparation entre un fond très plat et une forme qui vient se coller dessus, vraiment comme un collage. Et maintenant, en fait, je mélange 2 couleurs à même la surface de la toile, avec beaucoup d'eau. C'est ça qui fait ce sentiment liquide, comme tu disais.
En même temps.
Et en même temps.
Et qui révèle d'autant plus le geste, du coup, ce mélange de couleurs.
Ben, c'est plutôt une façon de diluer le geste. C'est pour ça que j'utilise beaucoup d'eau, parce que ça me permet d'échapper à la décision de mon propre geste et à la connaissance que j'en ai aussi. Et c'est pour ça que... Enfin, c'est un autre geste, si tu veux. C'est-à-dire, y a toute une préparation de ce fond qui me familiarise un peu avec le territoire. C'est-à-dire, d'abord, je tends la toile, en fait, brute. Et j'aime bien ce passage où, au départ, il y a un châssis, c'est-à-dire, c'est un trou, tu les vois, là. C'est un trou dans du bois. Et après, quand je tends la toile, ça devient une surface. Et revivre ça tout le temps, j'aime ça, j'aime le faire. Donc après, je passe un gesso que je ponce. Je repasse un gesso que je ponce. Je passe une couche de couleur, puis une seconde, pour que la toile elle soit bien bouchée. C'est-à-dire, ça crée la surface pour moi. Le gesso, il bouche les mailles de la toile. Et puis après, le fait de poncer, ça la lisse. Et donc, ça prépare la surface.
Mais c'est déjà le geste du peintre, en fait. Tu charges la matière de ton
propre... Oui, c'est vrai. Ouais.
C'est vrai que souvent, une toile, si tu l'achètes déjà prête dans un magasin, ben en fait, il y a souvent un geste usiné qui se ressent énormément dans la
oui,
surface.
Exactement.
Dans la saturation de la toile.
Ouais. Et la qualité de la surface, du
ouais.
coup.
Ouais. Donc, du coup, ça travaille déjà la présence de tes peintures.
Ouais. Là, elle garde quelque chose d'assez poreux, la surface. J'utilise du coton. Et donc, après ces étapes-là, c'est là le moment où, en ce moment, hein, ça n'a pas toujours été comme ça, mais en ce moment, c'est comme ça. Je mets beaucoup d'eau et de couleurs que je mélange en fait en inclinant la toile de façon à faire couler la couleur et les deux couleurs du coup vont l'une dans l'autre. J'incline de différents côtés et je fais circuler la couleur sur la surface et elle descend comme ça, elle coule et elle se mélange, j'allais dire malgré moi, mais c'est avec moi parce que je commence à
la guide
et en même temps
tu es déjà pas.
C'est ça et c'est ça que j'aime dans la fluidité, dans l'eau, dans le liquide, c'est que ça échappe en fait. L'eau, elle va partout où elle veut, on ne peut pas vraiment la contenir.
Et pourquoi que deux couleurs en fait?
C'est une bonne question, tu as raison parfois.
Parce qu'avant, tu étais avec une seule couleur, du coup, tu es passé à deux.
Ouais. Ben, en fait, c'est que c'est déjà énormément de surprises pour moi. Donc c'est peut-être progressif, tu as raison, peut-être qu'après je ferai ça avec plus de couleurs. Mais pour moi, là, il y a déjà tellement de lieux de possibilités, tu vois, parce que il y a des densités différentes. Et puis en fait, mais ça, je me le suis formulé récemment, c'est-à-dire dans l'atelier d'ici, il y a un dessin, ce fond, en fait, il se fait à partir d'un dessin qui disparaît. C'est-à-dire... quand je mets mon eau et mes couleurs, alors je mets l'eau et une couleur partout, très fluide. Mais après, la seconde, je la passe avec un geste. Mais ce geste disparaît grâce à l'eau. Il est dissous, en fait, dissous.
Mais du coup, ça veut dire que là, tes fonds, c'est une fois.
Eh bien, alors ça, il y en a qui se font en une fois. C'est-à-dire... Après ce moment que je viens de décrire, il y a un territoire qui me donne envie d'y aller, qui me donne déjà quelque chose à voir, et parfois pas. Et parfois c'est très très bien. Ça s'empile et ça vient pas.
Donc du coup tu recommences, tu remets...
Je recommence.
Tu reponces ou non.
Comme j'ai fait dans celle que vous avez vue hier.
Ouais.
Et souvent je remets un aplat parce que sinon... il y a quelque chose qui reste inscrit dans la surface. Donc pour vraiment redémarrer, souvent je ponce, je passe un aplat et je recommence.
Pour remettre un fond avec ce type de texture.
Voilà, ouais. Et sur la tranche, on voit un peu l'histoire. C'est-à-dire on voit celles qui sont venues plutôt vite. Par exemple, là on voit, il y a eu juste un passage.
Ouais.
Et puis des fois on voit, il y a plein de couches. Il y a une chronologie où pendant longtemps, j'ai travaillé, comme tu disais, vraiment en deux temps. Quand le fond est sec, un geste vient dessus, par-dessus, vraiment. Voilà. Et dans celui-là, et c'est ce qui est plus en cours en ce moment, je remouille le fond avant de faire ce trait, on peut dire ce trait, ce geste. Mais avec de l'eau pure. Et en fait, ça fait que la peinture, elle va fuser légèrement dans le fond et elle s'y incorpore un peu plus.
D'accord.
Ouais. Et ce geste, en fait, il est de plus en plus difficile à faire parce que c'est une espèce de minimum du dessin. C'est vraiment un trait en fait. En ce moment, c'est un trait. À d'autres moments, ça a été plus une masse, une espèce d'amalgame.
C'est plus une masse.
Oui, tu as raison. Ouais. Ouais, c'est vrai.
Sur
ouais.
Les droites, là.
Selon les formats, en fait.
Oui, et puis aussi la forme qui remplit la totalité du contour de la toile, quasiment. Enfin,
oui.
Une forme très centrique.
Oui, c'est vrai. Ça, pendant longtemps, j'ai fait cette forme qui est une espèce de tour du vide, en fait. Qui fait le tour du tableau, mais par l'intérieur. Et dont le seul projet, je dirais, pour la faire, c'est montrer par d'un endroit et j'ai décidé qu'il va revenir se boucler au même endroit. Et je fais ça le plus vite possible. Et j'ai pas parlé de la vitesse, mais c'est important pour moi dans ce désir d'échapper à mon propre contrôle et à la connaissance que je peux avoir de mon geste et de ce tracé. La vitesse me permet de me dérouter un peu par rapport à ce que je pourrais savoir faire très bien à force de le faire tout le temps. Je suis toujours à la recherche de quelque chose qui va se faire un petit peu sans moi, en fait.
Et entre ce trait ou ces traits, mais c'est vrai que là, par exemple, tous les petits formats, c'est quasiment qu'un trait. Ouais. Des fois, un trait avec un deuxième qui revient juste par-dessus, mais qui le suit, quoi. Et le fond, il y a une espèce de presque, on a l'impression qu'on pourrait, que ça flotte en avant,
oui.
Que ton trait flotte en avant du fond, et qu'il y a presque un espace entre, il y a presque un effet de comment on appelle ça, d'hologramme, enfin
c'est comme pas vrai. Comme une suspension.
Comme si on pouvait presque mesurer l'espace entre ce trait et le fond, enfin en même temps le fond il donne pas l'impression d'être plat non plus, quoi. On a quand même l'impression que ça s'enfonce très loin, mais qu'il y a vraiment une comme si c'était décollé. Tu disais ton geste il est collé sur le fond, et je trouve qu'il a l'air plutôt décollé, en fait.
Ouais, collé dans le sens d'un second temps, mais c'est vrai, mais ce que tu dis,
tu pratiques souvent comme ça de toute manière, enfin
oui.
De ce que j'ai pu t'apercevoir dans ton travail. Et alors, ce qui n'est pas présent ici, parce que travailler le fond d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est comme une série, mais souvent tu as un traitement différent, enfin tu as plusieurs types de traitements du fond. Et moi, ce que j'avais eu comme intuition en voyant tes peintures, c'est que tu avais comme un répertoire de fonds différents et un répertoire de gestes différents, et qu'il y avait une espèce de multitude de combinaisons qui pouvaient se faire, qu'il y avait des tentatives d'inversion pour peut-être opérer des présences différentes, de mise en avant du geste différente.
Il y a plusieurs choses à quoi je veux répondre. En fait, il y a d'une part, par rapport à ce qu'a dit Flavie, effectivement cet espace énigmatique, cette distance énigmatique entre le fond et la forme qui vient dessus. Et là, j'ai envie de dire une citation que j'ai découvert avec... Bonheur de Victor Hugo, je ne sais pas si vous la connaissez, qui dit « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. » Et j'avais trouvé ça tellement lumineux comme phrase. Et ce que tu dis aussi me donne envie de préciser qu'il y a une histoire de sédimentation dans le fond. C'est-à-dire, j'ai parlé de la façon dont je fais couler la couleur avec l'eau, mais après, il y a aussi tous les phénomènes de séchage qui vont créer des zones différentes. Après, quand tu dis répertoire, il y a le répertoire des fonds. Il y a une notion de contrôle que je sens pas. C'est-à-dire, oui, je commence à savoir, enfin comment dire, j'allais dire à savoir les faire, à savoir un petit peu plus comment ça va faire s'il y a plus d'eau ici, plutôt là, une densité plus grande de peinture ici ou là. Mais ce que je cherche, c'est quand même à ne pas savoir. Enfin, l'excitation, pour moi, elle vient de là, de quelque chose qui se fait en temps réel. Ce qui me donne l'envie, l'appétit de le faire, c'est la curiosité de qu'est-ce que ça va donner si je fais ça. comme si ça allait donner lieu à un précipité, en fait, une dimension d'expérience un peu chimique et, et d'inconnu.
Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la chimie, ouais, quand on, dans les couleurs qui fusent entre elles. J'ai l'impression que tu as rajouté aussi, il y a une petite matière, comme des petits graviers ou des petits...
Alors ça, justement, c'est vraiment lié au phénomène que je disais de sédimentation. C'est-à-dire, c'est vraiment... Ça s'est déposé tout seul, dans le mélange de certaines... C'est que de la peinture, ouais.
D'accord.
Et là, c'est là où tu as parfois une peinture mal mélangée, elle va faire des petits dépôts, tu vois, ou se coaguler par endroits.
Parce qu'on a vraiment l'impression que tu as presque
saupoudré. Ouais. C'est vraiment le séchage qui a fait ça. Ouais.
Parce que du coup, ça a fait presque aussi comme des plis, comme une espèce de... Comme si la toile avait été un peu abîmée, presque. Enfin,
comme un relief aussi.
Ouais, comme une empreinte de bitume, ou tu vois. Pas sur celle-ci, là, c'est... Et est-ce que... Donc, les fonds, forcément, tu les fais au sol à plat.
Oui.
Et le geste par-dessus, aussi.
Aussi. Ce qui est pas facile, enfin, ce qui a pris beaucoup de temps, parce qu'avant, ben, quand je travaillais sur les aplats, je travaillais beaucoup à la verticale. Et j'aimais beaucoup ça, c'est-à-dire que dans cette frontalité en fait, du corps avec la surface. Parce que pour moi, c'est vraiment le lieu de la peinture, ça, ce rapport du corps avec une surface, quand on la fait ou quand on la regarde. C'est aussi comme ça que je perçois la peinture des autres, dans cette frontalité où on est en face de la surface. Et sauf qu'en travaillant très fluide, si on travaille comme ça, tout coule. Et ça vient
même
faire.
La partie du trait, parce qu'elle a l'air quand même. Enfin, cela dit, je dis ça, il y a quand même. Sur certaines, ça a l'air liquide, mais sur cette grande, là, toujours la.
Elle est un peu plus compacte, mais la couleur est assez fluide quand je l'ai passée, quand même. Et quand ça coule, ça fait des verticales qui viennent vraiment participer au dessin et qui me gênent. Donc maintenant, je travaille à plat, ce qui n'est pas facile pour des grands formats, parce qu'il y a forcément une contrainte d'accès à la surface. Et donc, ça implique une danse un peu.
Il y a un haut et un bas quand tu es au sol ou tu la regardes après ?
Non, il y a toujours un haut et un bas. Ouais. Parfois, quand je les regarde, je les fais tourner pour sentir ce que je ne vois pas de manière immédiate. Par exemple, des poids. Tout le poids va être d'un côté, mais parfois je suis tellement dans ma vision ou mon intention initiale que je ne le vois pas. Quand je la tourne, je le vois très fort. Mais c'est juste pour... Elles se fondent dans un sens précis, quoi. Enfin, dans un seul sens, je veux dire.
Et les petites pièces, en fait, tu as aussi des choses qui sont sur des petits morceaux de contreplaqué, qui sont d'une nature assez différente. Enfin, même si on retrouve à chaque fois le trait ou la marque, je ne sais pas comment tu appelles ça, enfin, tu as plusieurs traits les uns sur les autres.
En fait, c'est des chutes de bois, donc c'est des morceaux récupérés. Et ça vient vraiment de la chute. Après, il y a un de mes grands fantasmes qui est de faire dans la peinture et dans la vie de ne rien consommer et de vivre qu'avec ce qu'on récupérerait. Je l'ai souvent eu dans la peinture, de me dire que je pourrais faire sur des surfaces que je trouve. Bon, il y a d'autres choses qui se déploient sur la toile. Donc, mais j'ai un attachement à ces morceaux, enfin, cette histoire de déchéance des matériaux. Et de récupérer ces bouts de bois qui serviraient à rien. Et effectivement, du coup, ils se font pas pareil parce que le fond, c'est le bois en tant que tel. C'est-à-dire, je recouvre pas toute la surface. Le bois, il a son propre dessin. Parfois, il y a des saletés, des inscriptions qui sont déjà là. Et il y a une noblesse pour moi dans ces morceaux de bois.
C'est aussi que le même geste se retrouve transformé par le support.
Oui.
Parce qu'on sent que c'est la même énergie, le même élan face à la surface, et en fait l'absorption du bois fait que il y a un truc qui, se distancie de ce que la toile, elle, reçoit plus directement.
C'est vrai, ouais.
Et tu nous expliquais aussi que tu les utilises différemment, c'est-à-dire que tu vas chercher l'aléatoire,
voilà.
Tu ne fais pas avec
une toile. Le point de départ sur cela, hein, j'en avais déjà travaillé dans un autre atelier, mais où, à nouveau, c'était vraiment les chutes elles-mêmes qui m'avaient donné envie de peindre dessus. C'était des restes de plancher, dans un atelier que j'ai eu à Bobigny. Et où donc il y a une surface déjà picturale, en fait, qui est celle du bois, comme tu disais. Et là, en fait, j'ai posé... Donc, quand je fais les toiles, ça coule beaucoup, la couleur. Et j'ai posé les morceaux de bois sur les taches de couleur qui s'étaient déposées au sol. Et donc, elles l'ont absorbé. Et c'était le point de départ. Et après, il y a une âpreté dans... Il y a une pauvreté, en fait, qui est plus évidente sur ces surfaces de bois qui sont nues que sur les toiles, mais il y a quelque chose dans le déroulement de mon travail depuis que je peins, qui essaye de se dénuder, en fait, d'aller à une espèce de presque rien, en termes de dessin, notamment quand je vous parlais de ce trait... C'est juste un trait.
En même temps, il y a quand même une richesse de...
Oui, il y a quand même l'appétit.
Un truc un peu, je ne sais pas comment dire, somptuaire.
Oui, il y a l'appétit et plus des couleurs et la saveur. Et il y a ce festin aussi. Oui, qui peut-être paraît paradoxal par rapport à la notion de pauvreté. C'est vrai que c'est un grand festin pour moi, les couleurs. C'est vraiment ce qui nourrit le plaisir de peindre.
Parce qu'il y a quand même... Enfin, ouais, peut-être que la couleur, tu peux...
Ben en fait, c'est drôle, parce que c'est une des choses dont je ne peux pas dire grand-chose. Ça m'avait surpris une fois quand j'avais eu cette question, parce que je m'étais rendu compte que c'était la chose dont je savais... à laquelle je pensais le moins. C'est alors qu'elle est très, très fondatrice, mais c'est ce qui est le plus du côté du silence, de l'intuition et du physique, en fait. C'est comme l'envie de manger quelque chose. Et ça, c'est sans cesse renouvelé par le fait que ça change tout le temps, une couleur avec une autre. Ça en fait une nouvelle et les rapports, c'est infini, cette surprise de la couleur.
Et tu peins avec des... Alors, c'est très mat. C'est des peintures...
C'est des peintures de déco, en fait. C'est important que ce soit mat, comme tu dis, pour moi, parce que je veux pas qu'il y ait de reflet. Dans ce désir de frontalité que je disais tout à l'heure, le reflet, pour moi, il brouille la frontalité. Et en fait, c'est des peintures qui sont dans des pots. J'aime bien, en fait, que la peinture soit dans le pot. Je trempe le pinceau dans la couleur.
Tu les mélanges pas vraiment?
Je les mélange parfois, mais à force de les connaître un petit peu, maintenant je les fais faire à partir d'un nuancier. Je fais faire les couleurs que je veux. Parfois je me retrouve quand même à les mélanger, mais j'aime pas trop la technique, en fait.
Et ce mat, il y a quelque chose de... Comme si aussi tes peintures avaient quelque chose qui aspirait un peu. Enfin, comme... Ouais, donc ça accompagne une profondeur... des fonds aussi, comme une espèce d'aspiration dans la toile, quoi.
Souvent, moi, j'y pense en termes de porosité, mais cette nettité, elle est importante. Après, là, donc, vous voyez ce que j'ai fait depuis ici, voilà, depuis un mois et demi. Mais du coup, c'est vrai que c'est une façon, je pense, de voir la façon dont je travaille, c'est-à-dire c'est tout le temps la même chose, on peut dire. Enfin, ma façon de travailler, en fait, c'est cette répétition d'actes qui, en se répétant, se déplace petit à petit.
Après, elle se répond aussi, là, quand on voit toute la série de petits formats qui est au mur, il y a une partition qui se... Enfin, là, c'est le fruit un peu du hasard de l'atelier, mais c'est qu'il y a une partition qui se crée entre chacune. Il y a la présence de la peinture elle-même, mais la présence des peintures entre elles. Et il y a quelque chose qui danse beaucoup de l'une à l'autre. Un horizon qui ondule.
C'est... En fait, tout à l'heure, tu as parlé de série. Et effectivement, à une époque, j'ai employé ce mot jusqu'à me rendre compte que c'était une seule série qui démarre quand je démarre, qui a démarré quand je me suis mise à peindre et qui continue. Dans le sens de la répétition et de refaire tout le temps la même chose, comme je vous disais avant. Après, par rapport à ce parcours, ou ce mouvement en tout cas, entre les peintures, effectivement, à une époque, la même d'ailleurs, le début, quoi, je présentais beaucoup les peintures sous forme de série, dans le sens où j'avais envie qu'on voit ce qui se passe entre elles, dans les vides, ce qui fait qu'une peinture va engendrer l'autre. Et puis à un moment donné, ça m'a gênée parce que j'avais l'impression de présenter une espèce de témoignage du travail. Mais que toute seule, elle ne tenait pas toute.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut certaines... oublier la peinture elle-même.
Et voir ce qui change. Voilà, ce qui change d'une peinture à l'autre. Ce qui fait partie de la façon dont je l'ai fait, c'est-à-dire... souvent, je m'arrête à un moment où... parce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de continuer de voir. Alors, je m'arrête de recouvrir, parce que la peinture, elle se recouvre, elle se fait disparaître tout le temps, en fait. Donc, quand je m'arrête, c'est parce que j'ai envie de continuer à voir cette chose qui est apparue, et que j'ai pas envie de la perdre. Mais du coup, à la peinture suivante, j'ai envie de repartir de là pour continuer. Donc, c'est ce mouvement-là que je fais.
Mais par contre, si, parce que tu disais tout à l'heure que si ton geste, ou si tu avais l'impression qu'elle tenait pas, en fait, tu recouvres.
Oui.
Tu te dis pas, bon, ben là, je suis là, maintenant, qu'est-ce que je peux peut-être changer, rajouter, déplacer.
C'est vraiment dans le signe. Il y a un signe à chaque fois sur la toile. Et
en ce moment,
tu ne complexifies pas la forme.
En ce moment, au contraire, il se dénude, il s'appauvrit. Enfin, il se...
Ce serait comme pour abandonner le geste, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est presque en ce moment, j'y ai pensé en faisant cette toute petite là, que c'est presque juste le contact du pinceau à la surface, c'est déjà un dessin. Juste le moment où tu touches, en fait, ça dessine déjà, selon la façon dont tu touches la surface. Après, ça n'a pas toujours été si maigre, le dessin, mais en ce moment, c'est comme ça. Et ce que tu demandais, Flavie, sur le fait de continuer ou recouvrir, je ne peux pas les transformer. Bon, ça, on en fait tous l'expérience. Tu ne peux pas changer un morceau d'une peinture sans que tout soit bouleversé. Parfois, c'est un peu dur parce qu'il y en a qui ont quelque chose que j'ai envie de garder, mais qui sont insuffisantes. Alors là, il faut accepter de perdre
la totalité,
la chose. Ouais.
Ou d'être dans l'insuffisance.
Si elles ne me nourrissent pas moi-même, les peintures, j'ai pas envie qu'elles continuent d'exister. Si elles ne nourrissent pas mon regard, si elles ne gardent pas quelque chose qui m'étonne, je préfère... Parce qu'après, il y a aussi un effet d'encombrement, quoi. J'en fais.
Et tu en jettes ou tu les gardes?
Je les jette pas, je les recouvre. Les papiers, je les jette, ouais.
Les
papiers, oui, j'en ai pas parlé, donc c'est en parallèle. Il y a toute un travail sur papier que j'aime beaucoup le papier, en fait. J'ai commencé à peindre sur papier. À l'époque, c'était, je pense, un peu un refoulement de la toile qui m'apparaissait comme un carcan, enfin, une espèce de panoplie du peintre. Qui m'apparaissait désuète parce que j'étais inhibée, parce que voilà, je fais partie de cette génération de peintres à qui on a appris à l'école que la peinture c'était fini. Et donc j'ai commencé à peindre sur papier, mais des grands papiers. Et j'aime beaucoup le contact avec le papier, qui est très différent de la toile, parce que le papier il accompagne le geste. Il y a vraiment un glissement qui est très spécifique au papier, alors que la toile elle freine du fait de sa trame. Elle freine le geste, c'est pas du tout pareil. Et donc le papier, ça me permet d'aller vite pour essayer beaucoup de choses. Après, ça répond aussi à mon appétit de faire. Donc je travaille sur des papiers que je tends, parce qu'en fait, s'ils ne sont pas tendus avec de l'eau en préalable, ils frisent. Je les tends et...
Ils sont bien tendus.
Oui, j'aime bien le fait que la surface, elle soit très lisse, très...
Et alors, les deux plaques de bois que tu as, c'est par. Tu les tends par trois.
Voilà,
c'est carrément par trois. La petite installation.
Justement, je ne les ai pas encore assez regardées, ceux que tu as là sur les genoux. Et donc, je ne sais pas encore si elles existent par trois, ces peintures-là, ou si elles peuvent exister toutes seules. Pas
ah oui, parce que du coup tu les fais, enfin c'est comme un peu en un.
C'est vraiment dans le même moment. Je les fais dans la foulée, on peut dire. Ouais. Et donc elles se ressemblent beaucoup. Et...
Par les couleurs.
Oui. Elles sont en fait d'un seul jet, on peut dire. Et
les couleurs, enfin j'ai l'impression que c'est pas. Ma question elle est pas. En fait. C'est comme si, en tout cas peut-être sur celle-ci, comme si les couleurs que tu utilises pour le trait, donc pour le signe qui vient après, c'est les mêmes que celles du fond.
Plus ou moins. Elles ont...
Comme si c'est jamais exactement les mêmes. Deux états très différents d'une même peinture. Là, tu vois, deux façons très différentes d'utiliser la même peinture, la même couleur,
ouais.
Qui donnent deux... Enfin, c'est pas exactement le cas, hein, parce que...
Oui, parfois, comme tu dis,
c'est... Moyen, là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, mais...
Parfois, comme tu dis, c'est un peu les mêmes, c'est-à-dire comme les mêmes ingrédients utilisés différemment, un peu plus épaisse pour la peinture qui vient en second temps. Et parfois, c'est plus en contraste, c'est-à-dire le trait, il vient un peu comme une coupure dans un territoire. Cette histoire de coupure, c'est quelque chose qui se jouait déjà... Mais autrement, à d'autres moments, c'est la question de, justement, comment dire, une forme sur une autre, ça fait quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'elle la détruit? Est-ce qu'elle la donne à voir autrement? Cette histoire de cohabitation et de rencontre, ou de collage, comme j'ai dit au début, elle a souvent été là.
Ce que je te disais tout à l'heure, ce rapport, ces inversions entre le fond et la forme.
Oui.
Comment les choses se reçoivent entre elles.
T'as
eu quand même des fonds beaucoup plus marqués par ton trait de pinceau, là on est vraiment dans de la dilution.
Oui, c'est vrai.
Mais avec une dimension peinte très différente.
Même avec des gris ou des choses comme ça aussi. Hein.
C'est vrai qu'il y avait une gamme qui était plus rompue auparavant, où les couleurs étaient beaucoup mélangées de blanc, grisé, quoi.
Et alors, est-ce que ça parle de quelque chose de réel, entre guillemets. C'est-à-dire que quand je pense à tes toiles plus géométriques, souvent on a une sensation d'objet vu où tu aurais récupéré la structure. Je pense à des espèces de hamacs métalliques, des choses comme ça que j'avais vues. Je me suis dit, tiens, je connais cet objet-là, et en même temps ça m'a mis dans une abstraction. Du coup, est-ce que c'est ces gestes-là qui sont présents ici viennent de quelque part de. Enfin,
d'une vision. En fait, c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai essayé de faire un bloc. Un bloc auquel parfois je pensais comme une espèce de pavé, mais qui restait un cerne de vide, en fait. Tu vois, une façon de dessiner un vide. Mais là, c'est vraiment plus le trait dans ce minimum du geste qui vient toucher la surface.
Mais l'élan, il vient de... Enfin, là, tu es dans un contexte très... où tu es vraiment en pleine nature, dans le parc.
Oui.
Je te pose la question, parce que là, je vois ce petit bois depuis tout à l'heure, que j'aime beaucoup, où tu as un trait de pinceau donc, qui vient de toi, mais qui, je trouve, a une présence de geste qui est très différent. Et là, juste derrière toi, derrière ta chevelure, je vois le pignon du mur avec les lichens. Et en fait, il y a une espèce de présence non intentionnelle que je vois comme un prolongement, en fait, de ce que je vois dehors. Je le vois, je bois dans le bois, c'est pas notre bois.
Oui, ça m'intéresse de parler de la question de l'intention, parce que tu vois, celui que tu as regardé là, c'est une interruption. Et très souvent, c'est comme ça que ça me plaît et que ça m'étonne quand je fais pas ce que j'avais prévu ou quand je m'arrête au milieu. Et donc ça demande d'être très présente à ce moment qui va très vite. Et par rapport à ce que tu dis, c'est vrai qu'en venant à Kerguéhennec, j'ai beaucoup pensé au paysage qui allait m'étonner. Enfin, je m'étais projetée, j'avais imaginé notamment aller dessiner dehors, en me disant c'est une situation particulière, donc je vais l'utiliser de manière particulière. En fait, je suis beaucoup, beaucoup dans l'atelier. Mais je sais que le paysage rentre toujours dans l'atelier, en fait. Pas forcément en temps réel. Mais ce trait, ouais, je pense beaucoup en ce moment, et souvent, je pense beaucoup aux peintures rupestres, en fait, c'est-à-dire à la peinture vraiment en tant qu'acte primaire. Il y a quelque chose de vital pour moi dans ce geste, tout en me posant la question, et en plus, on ne sait pas le sens que ça avait pour les hommes préhistoriques de faire ces peintures. Il y a plein d'hypothèses et d'interprétations, mais on ne sait pas exactement le sens que ça avait pour eux. Ce qui a été envisagé, c'est que ça pouvait avoir un sens collectif, déjà, ou être lié à des rituels. Il y avait des hypothèses qui avaient été faites, que ça pouvait être aussi un peu incantatoire, et notamment que le fait de dessiner des animaux, c'était pour que les chasses soient bonnes. Puis après, on s'est rendu compte que tous les animaux dessinés n'étaient pas chassés. Moi, ce à quoi je pense plus récemment, c'est aussi ils étaient forcément formés. Parce que tu as des dessins d'une précision. J'avais été il y a longtemps dans le Tassili-Nagère, où tu as des peintures qui ne sont pas dans des grottes, mais dans des abris. Les abris, c'est en fait le pied de la roche qui est érodé. Donc ça fait une espèce de auvent et de lieu un peu protégé, mais ce n'est pas dans la profondeur de la grotte. Et là, il y a des peintures qui sont d'une finesse, où pour faire un trait aussi fin sur une roche aussi granuleuse,
et on n'a pas de traces de...
Après, on peut imaginer qu'il s'était aussi dessiné dans le sol, dans le sable, dans... Tu vois, pour
ouais, c'est vrai. On sait pas.
Bâton,
ouais, on sait pas. Ouais.
Chose qui disparaît, enfin, tout ce qui a disparu, quoi.
Non, après, quand tu dis on sait pas, nous non plus, le sens, mais on sait que c'est fait pour être regardé. Sur les peintures préhistoriques, on se demande si ça avait un sens dans leur société pour se relier aux esprits, pour se sentir en vie, comme tu disais, ou être un lieu lié à des cérémonies. Enfin. Après, moi, ce qui me touche dans ces peintures, c'est de penser que quelqu'un l'a fait. Il y a un texte de Marguerite Duras que j'aime beaucoup qui s'appelle « Les mains négatives » où elle imagine comme ça ce qu'a pu être ce geste énigmatique de poser sa main sur la paroi rocheuse.
Oui, ce qui a été ton moteur pour une installation que tu as faite alors dans les chapelles, par exemple. Et alors, du coup, j'ai regardé un peu plus ce que tu avais fait avant de venir. De choses plus anciennes en fait, parce que j'ai vu dans les années 2005 sur une vitrine un dessin qui était déjà une empreinte, donc c'est vraiment un truc qui t'accompagne.
Ouais, c'est un truc qui m'accompagne, mais ça c'est drôle parce que je suis souvent confrontée à des boucles comme ça où j'ai l'impression de repasser exactement au même endroit où j'étais il y a 5, 10, 15 parfois. Par exemple, parfois dans un rapport de couleur, je retombe exactement dessus sans l'avoir cherché. Et très souvent, bon, après, ça fait partie de mon processus, où c'est vrai que je ressasse, je rumine, je ressasse, je repasse sur les mêmes...
On ressasse tous... on ressasse tous la même chose durant toute notre vie, en fait.
Ouais. Enfin, on la parcourt de différentes manières.
Tout ce qu'on avait à dire, on l'a dit à l'adolescence. Enfin, à l'âge de 18 ans, après, ce qu'on essaie, c'est de mieux le dire. Mais un peu différemment, un peu plus clairement.
Je me souviens très bien quand j'étais aux Beaux-Arts, donc je suis rentrée jeune, j'avais 17 ans, et il y avait eu un artiste, je ne sais plus qui c'était, qui avait fait une conférence de présentation sur son travail. Et la formule qu'il avait employée, elle m'avait tellement marquée. Il avait dit, on travaille à partir de nos obsessions. Mmh. Et j'y repense tout le temps, en fait.
Ça serait quoi ?
Mon obsession ? Mmh. Il y a une histoire d'empreinte, d'imprimé, en tout cas de contact avec la surface, de mise en contact avec la surface. Mais après, je pense que si je pouvais vraiment la nommer, cette obsession, je ne serais pas autant à sa recherche.
Parce que tu travailles vite aussi. Tu travailles vite, tu travailles beaucoup. Donc il y a quelque chose aussi d'une espèce de boulimie.
Il y a vraiment.
C'est marrant parce qu'à la fois tu te dis un geste qui s'appauvrit le plus possible et tout ça. En même temps, il y a cette chose très.
Foisonnante un peu.
Ouais, foisonnante, pas compulsive, je sais pas comment.
Si, on peut dire.
Compulsive. Et de même de. Enfin, tu dis souvent ça. De goût.
Il y a quelque chose d'un
tu
peu.
De la peinture miam miam, quoi.
Oui, c'est ça, ouais. Il y a quelque chose d'insatiable, effectivement, dans ce désir de faire. C'est une façon de vivre, après, hein. Je crois que je ne saurais pas vivre autrement.
On n'était pas dans une frustration, parce que ça pourrait être très frustrant aussi, ce côté insatiable. Et... Je ne vois pas comment. Enfin...
Ben, non, ce n'est pas frustrant, parce que ça renouvelle sans cesse l'envie de faire, d'essayer, de continuer. Après, c'est vrai que c'est aussi ce qui me tient, je ne saurais pas vivre autrement. C'est une joie aussi, je veux dire. Il y a un mot que j'aime beaucoup. Dans les carnets de Camille Saint-Jacques, ces carnets d'atelier qui s'appellent Les Journées, que j'avais lu il y a quelques années. Il emploie un mot dont j'avais presque oublié l'existence parce qu'on l'emploie pas souvent, il parle de jubilation. Et je trouve que c'est vrai que dans l'atelier, heureusement, il y a souvent ça, avec évidemment aussi des dépressions et des déceptions, mais il y a quand même une façon dont on se donne de la joie qui est très très nécessaire pour moi.
Quand tu regardes, quand tu fais,
quand je fais et que j'ai l'impression que c'est génial. Bah ça, Bram Van Velde, il le dit magnifiquement, je trouve, enfin dans cette clarté qui est la sienne quand il parle avec beaucoup d'économie, il a dit je peins ce que j'ai besoin de voir. C'est tellement simple et je le vis beaucoup comme ça, moi. On se donne à voir ce qu'on a besoin de voir. C'est un peintre que j'ai beaucoup regardé. Et il y a aussi chez lui une façon dont la peinture coule, c'est-à-dire il y a une espèce de façon de, comment dire, de se désarmer, il y a une chute, il y a une structure qui chute tout le temps. Après, je voulais dire un truc par rapport à la lumière, parce qu'en fait, récemment, j'ai envoyé une image à une amie où j'avais donc un châssis au sol qui séchait, mais qui était encore blanc. Et il y avait comme... On est nombreux à adorer dans les ateliers quand il y a des carreaux de lumière qui se forment. Sauf que là, il s'était posé vraiment pile sur la toile. Et j'avais envoyé un mot à mon amie Marie qui, en lui disant un truc du genre « Parfois, la lumière peint pour moi. » Elle m'a répondu cette phrase lumineuse qui a dit « Ou c'est toi qui peins pour elle ?» Et je me suis dit « C'est ça, en fait, elle a raison. Je peins vraiment... Enfin, pour la lumière qui revient chaque jour, je pense qu'il y a dans ma façon et aussi dans cette façon de faire beaucoup le plaisir de la lumière du jour, en fait, enfin, de cet enchantement.
Ça se lève.
C'est fou quand même. Après, ouais, je voudrais juste préciser un truc par rapport à la question de l'intention. Souvent, je suis obligée de travailler contre ma propre intention ou mon propre projet. Après, j'ai été vraiment bercée dans ce moule du projet, comme le sont malheureusement encore beaucoup les étudiants en école d'art, c'est-à-dire dans cette méthode que je trouve autoritaire et pas valable, en fait, où on devrait concevoir quelque chose avant de le faire. Pour moi, ça réduit énormément le champ de la création. Et
surtout quand on est peintre, en fait, je crois que
ouais.
Ça c'est une grosse difficulté justement par rapport au fonctionnement actuel.
Ouais.
Établir un projet en peinture, bah, j'ai envie de peindre aujourd'hui. Quoi.
Mais c'est ça, c'est le contraire qu'on fait en fait.
C'est de poursuivre quelque chose qui est déjà en marche.
Et puis qui s'échappe.
Donc, mais bon, il y a encore des résidences où ça peut se faire.
Où il faut formuler des projets, ouais. C'est pas le cas de celle-ci, et ça c'est vraiment ici, bien. Ouais. Ici c'est un vrai soutien à une pratique en train de se faire. Pour que ça continue de m'étonner, souvent je suis obligée de faire le contraire de ce que j'ai prévu de faire, sinon ça m'ennuie. Bon, après mes projets, c'est je vais faire un trait qui fait une boucle. C'est de ce genre, hein. C'est de cette nature.
Bon, et après, tu disais, tu contredisais tes intentions?
Ouais, ou j'interromps. Parce que sinon, ça m'étonne pas assez et je m'ennuie moi-même.
Ça veut dire que tu fais pas la boucle que tu avais projeté de faire?
Voilà, je m'arrête avant de démarrer, ou je m'arrête au milieu, ou je la contredis. Mais c'est une espèce de comment dire, d'artifice psychique, c'est un peu bizarre. Je suis obligée de me duper un peu, de me faire croire des trucs.
Non, ça me fait penser. Dans les journées de Camille Saint-Jacques aussi, excuse-moi. Il dit qu'il passe vachement de temps à dire ouais, là je vais mettre une couleur un petit peu comme ça. Et puis que finalement au dernier moment, c'est rien à voir avec ce qu'il a mis un quart d'heure ou je sais pas combien.
Ouais. C'est vrai que ça, je trouve que les peintres en parlent beaucoup et très bien de cette façon dont la peinture se fait, dont ça se fait. Parfois, les peintres parlent de la peinture comme d'une chose vivante qu'on essaye d'animer, mais qui se ferait un peu sans nous. Et
donc, si tu appliques une idée en peinture, ça devient assez itinérante.
Et tu t'ennuies, justement. C'est pas des idées. Ouais. Et puis, c'est vrai que souvent, on met en place des conditions pour que la peinture ait lieu. Mais on peut juste mettre les conditions et après, elle se fait ou pas. Enfin, il y a quand même aussi... c'est quand même une grande glissade dans la peinture, je veux dire, en patouche, quoi. C'est la bouillasse.
C'est glissade pour... C'est pas mal glissade pour...
Glissade, ouais, ça glisse. Et je repense aussi souvent à cette phrase de Twombly qui disait que, pour lui, un trait contient toute notre histoire. Pas dans une intention... autobiographique ou pas, j'ai aucune intention de raconter ma vie ou qui je suis, mais j'ai l'impression, c'est peut-être un peu naïf, c'est naïf, que les gestes qui nous échappent sont plus importants que les gestes qu'on décide. Ça me fait penser à cette pièce que d'ailleurs tu avais, je crois, faite, Nicolas, au domaine de Kerguéhennec. Cette pièce de Cusin, bien fait, mal fait. Non, c'est pas exactement celle-là. C'est pas bien fait, mal fait, mais c'en est une où il avait confié de la peinture à des personnes pour peindre un mur, mais il n'avait pas donné assez de peinture. Et du coup, les personnes ont peint autant qu'elles pouvaient, comme elles pouvaient. Et en fait, c'est très différent selon les personnes. T'en as qui ont fait plutôt des verticales, puis des horizontales. T'en as qui ont fait un rond, en fait. Et c'est comme si ça révélait leur corps. Leur ligne de force, mais de manière très inconsciente. Et ça, je trouve ça très beau. Souvent, enfin, des fois j'aime bien tirer des fils monolithiques, c'est-à-dire des interprétations uniques, notamment de pourquoi je fais de la peinture. Et parfois, je place la façon dont mon père il passait l'éponge sur la toile cirée. C'était hyper méthodique. Il faisait vraiment toute la surface, même là où il n'y avait pas des miettes. Des fois, je me dis que c'est ça